Bonjour à vous tous, à vous toutes. J'allais vous remercier chaleureusement, mais je ne vais peut-être pas en rajouter dans la chaleur des remerciements. Merci en tout cas d'être venu jusqu'ici, en haut des salons Albert Mola, pour cette rencontre autour du livre que publie Natacha Vazdeir, pas seule d'ailleurs, avec Richard Comballo, il faut lui rendre hommage aussi. Livre qui est un livre de Michel Jury, autour de Michel Jury, sur Michel Jury, intitulé « Les carnets chronolithiques ». Alors peut-être êtes-vous venu jusqu'ici parce que vous suivez assidûment les travaux de Natacha Vazdeir, peut-être parce que vous êtes des accros de la collection, où vous allez être. C'est le premier livre qui paraît dans cette collection, « Science-fiction incognita ». On en parlera, il faudra expliquer quand même ce titre aussi, aux presses universitaires de Bordeaux. Peut-être êtes-vous aussi des passionnés de Michel Jury, des lecteurs de science-fiction, des lecteurs, des amateurs de littérature de terroir. Bref, pour toutes ces raisons, en tout cas, si c'est pour une de ces raisons-là ou pour toutes ces raisons que vous êtes venu, vous avez bien fait, puisque c'est de cela qu'il sera question ce soir avec Natacha Vazdeir. Alors, on va parler, échanger avec Natacha. Je vais traditionnellement lui poser quelques questions pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur ce livre. Peut-être pour commencer cet entretien, est-il important de se présenter? Alors je le fais rapidement pour moi-même, quand même, pour qu'on sache ce que je fais là et qui je suis. Donc Philippe Baudor, je suis professeur de littérature française à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Voilà, et j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Natacha, que je connais depuis longtemps, donc de ce livre. Et un mot quand même sur l'auteur ici présente, Natacha. Natacha Vazdeir, qui est agrégée de lettres, qui est aussi universitaire, puisqu'elle est chargée de cours à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et parce qu'elle est, et on en parlera, c'est un des éléments forts quand même de l'œuvre de Jury et une des raisons de cette collection. Natacha est une spécialiste de science-fiction. Il n'y en a pas beaucoup en France, il n'y en a pas beaucoup à l'université. C'est un point très très important. On y reviendra aussi, on aura l'occasion d'en parler. Elle est spécialiste reconnue, c'est une compétence reconnue par un certain nombre de distinctions acquises dans les milieux de la science-fiction, en France ou à l'étranger, pour ses différentes et nombreuses publications, notamment un livre qu'elle a fait paraître chez Champion, ces Français qui écrivent demain, qui a été une somme très très importante sur l'histoire de l'anticipation française, qui l'a amenée d'ailleurs vers de nombreux travaux, de nombreuses figures qu'elle a aidé à faire mieux connaître ou à faire redécouvrir. On pourra aussi en parler, Régis Messac, Francis Carsac ou bien d'autres, et Michel Jury aussi, et des auteurs beaucoup plus proches de nous. Et Natacha continue ce travail très très important, qui est un travail à la fois de recherche, d'exploration scientifique, universitaire, et en même temps ce travail de vulgarisation et de diffusion, puisque c'est important d'avoir les deux à travers des publications, notamment les presses, à travers des rencontres, à travers des manifestations, à travers des colloques, à travers des conventions. Donc c'est quelque chose de très très important. On évoquera, si on a le temps, ces différents aspects de son travail. Mais on va évoquer surtout Michel Jury, qui est la figure centrale de cette première publication. Et je crois que c'est très important, significatif, que cette collection s'ouvre par un ouvrage consacré à Michel Jury, un ouvrage de Michel Jury, mais un ouvrage assez particulier de Michel Jury, puisque c'est une sorte de, j'ai envie de dire, de mosaïque autobiographique. C'est une sorte d'autobiographie par petits morceaux, par petits bouts, qui a été constitué par Jury en partie tout au long de sa vie, comme s'il avait essaimé des petits morceaux qui ont été ainsi repris, qui font un tout, qui ont été patiemment recollés, reconstitués par les éditeurs de ce livre et qui redessinent la figure très intéressante et très singulière quand même de cet homme, qui est à la fois un homme modeste, simple, ordinaire par bien des aspects de sa vie, et puis en même temps un homme qui portait en lui, comme beaucoup d'auteurs, tout un univers imaginaire très complexe, très riche, qu'il a su faire partager avec ses lecteurs, une sorte d'homme à double visage, je dirais, simple par certains côtés, très complexe et très profond par d'autres côtés. Donc, Michel Jury et ses carnets chronolithiques, un titre d'ailleurs, carnet chronolithique, qui méritera aussi peut-être un petit peu d'explication. Donc, les choses étant posées, entrons, je dirais, dans cet ouvrage, peut-être par une petite présentation, Natacha, si tu veux bien, de ce livre. Pourquoi ce livre? D'où vient ce livre? De quoi est-il constitué? Et en quoi as-tu jugé important que ce livre constitue la première pierre d'un projet éditorial qui va très probablement se prolonger, mais je sais qu'il y a déjà d'autres projets en cours. Quelques mots de présentation sur ce livre, son auteur, ce qui le constitue et son titre. Oui.
Bon, merci Philippe. Alors à moi, je crois de dire aussi de remercier Philippe d'être venu et de faire cette modération, parce que Philippe a accepté il y a longtemps maintenant, enfin en 2005 je crois, après la mort de Bernard Cocula, qui fut mon premier directeur de thèse et qui était un fameux mauriacien. Il a accepté donc de reprendre cette thèse dans des conditions qui n'étaient pas très faciles. C'est jamais facile de reprendre ce travail, et donc ma thèse évidemment s'appelait Ces Français qui ont écrit demain. Donc c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé effectivement de venir modérer, parce qu'il connaît bien mon travail, voilà, il me suit et on est quand même complices justement sur ce travail-là. Et puis surtout, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que lui aussi a été un grand lecteur de science-fiction, donc je crois que c'était important de le préciser. Alors pourquoi Michel Jury? Parce que j'ai rencontré Michel Jury à un moment donné où je commençais à rentrer dans le milieu de la science-fiction, à un moment donné où je participais donc à ce travail de vulgarisation à travers la participation à des festivals. Et j'ai rencontré Michel Jury au moment, en 2010, aux Rencontres de l'Imaginaire de Sèvres, au moment où Michel Jury faisait paraître ce qui allait être quasiment son dernier roman, qui s'appelle « Mais le monde ». Et surtout, c'était un roman où il revenait à la science-fiction. Parce que ce qu'il faut, je pense, qui est important de souligner ici, c'est que Michel Jury, c'est un auteur qui a eu une double carrière. Alors, une carrière vraiment d'auteur de science-fiction des années 70 jusqu'aux années 80, fin des années 80. Et puis, estimant que cette carrière-là ne lui rapportait pas suffisamment d'argent, parce que quand on est écrivain, je crois que la problématique financière, c'est quand même quelque chose de très important, eh bien, il a décidé de se lancer dans la littérature de terroir avec un immense succès, puisqu'il a vendu des livres chez Robert Laffont, qui était son éditeur de prédilection, qui a été aussi son éditeur de science-fiction et qui continue d'ailleurs de l'être. Et chez Robert Laffont, eh bien, il a fait paraître à peu près 30-35 romans sur la littérature de terroir. Voilà. Ce qui est important, c'est que dans ces carnets chronolithiques, donc je vais évidemment expliquer le titre très très vite, eh bien, nous avons un reflet finalement de ces deux carrières, de cette double carrière, donc d'écrivain de science-fiction et d'écrivain de terroir. Et souvent d'ailleurs, le lectorat de science-fiction méconnaît totalement la partie littérature de terroir, et ses lecteurs de littérature régionaliste, eh bien, méconnaissent complètement le fait qu'il fut quand même un des grands grands écrivains de science-fiction en France. Voilà. Donc je rencontre Michel Jury en 2010. Je crois qu'on peut parler véritablement de coup de foudre amical entre nous. Alors d'abord parce que dans mes origines, il y a donc ma grand-mère est née dans le Périgord, et puis en 2010, je lui ai parlé de ça, puisque lui est né à Razac-d'Aimé. C'est quelqu'un qui connaît très bien Aimé, ici Jacques. J'y reviendrai d'ici quelques minutes aussi. Et donc nous avons parlé du Périgord, et c'est comme ça que finalement l'amitié a pu commencer. Et puis ensuite, je lui ai proposé des travaux. Je lui ai proposé un entretien. Nous sommes allés le voir chez lui. À cette époque-là, il vivait dans les Cévennes. Donc, nous avons tissé des liens. Et je dirais qu'au fur et à mesure des années, donc entre 2010 et 2015, puisqu'il est décédé donc en 2015, janvier 2015, et nous avons donc tissé ces liens, et il m'a dit qu'il allait m'écrire donc des textes pour raconter ses souvenirs. Donc, des textes qui finalement m'étaient destinés personnellement pour mon travail de chercheur. Ce n'était absolument pas, je dirais, des textes qui allaient servir à une quelconque publication. Mais c'était quand même des textes. Quand un écrivain raconte ses souvenirs, évidemment, ce sont des textes qui sont toujours de qualité. Vraiment, je dirais, alors une qualité à la fois littéraire, c'est-à-dire bien écrite, et puis une qualité de témoignage, véritablement, parce qu'il a évoqué tout un milieu de la science-fiction des années 70, et cette période-là, je crois, a été une période très créative pour toute cette famille d'écrivains et ce milieu de la science-fiction. Et donc, c'était particulièrement intéressant en tant que témoignage, et ça fait presque, je dirais, une valeur historique, vous voyez, en tant que pour s'inscrire justement dans l'histoire littéraire. Voilà. Donc, ces textes-là sont restés, Michel Jury me les a envoyés, je les ai gardés. Et puis, j'ai eu l'idée en 2014-2015, j'ai proposé aux presses universitaires de Bordeaux de créer une collection, justement. Alors, une collection qui, je dirais, avait des objectifs et des enjeux assez larges. D'abord, je l'ai appelée SF Incognita, comme Terra Incognita, évidemment, tout simplement parce que ça permettait peut-être de publier des textes inédits. Il y a encore beaucoup de textes donc inédits, de la fiction notamment, des auteurs de science-fiction. Et ensuite, ça nous permettait également de rentrer des essais inédits également, de la correspondance, parce que nous avons dans les archives beaucoup de correspondance qui est particulièrement intéressante à publier, aussi bien pour le travail évidemment de recherche universitaire que pour le grand public. Voilà, et donc j'ai créé avec les presses universitaires donc, de Bordeaux cette collection. Je dois dire que vraiment les presses universitaires m'ont totalement suivie dans ce projet. Le pôle recherche évidemment de l'université, donc Bordeaux-Montaigne aussi. Donc ça c'est très important et je tiens à le souligner parce qu'en France, on a un immense retard par rapport par exemple, je dirais, aux pays anglo-saxons, donc au Royaume-Uni par exemple ou aux États-Unis, où la recherche universitaire sur la science-fiction est extrêmement avancée. On offre des chaires de recherche, par exemple, à des auteurs depuis très longtemps, hein, depuis les années 60, à des auteurs. On leur permet de créer des ateliers d'écriture pour les étudiants, etc. Donc il y a vraiment une dynamique qui n'existe absolument pas en France. Et ça commence, évidemment, parce que il y a une nouvelle génération de chercheurs. On nous appelle un petit peu les chercheurs, je dirais, génération Star Wars, entre guillemets, tout simplement, parce que nous sommes nés avec ces grands succès de science-fiction. Et pour nous, eh bien, travailler sur la science-fiction, ça nous apparaît comme une véritable évidence. Et donc, je dirais que les universités françaises, peu à peu, se mettent effectivement à ce domaine de recherche. Et à l'Université de Bordeaux, que ce soit par exemple pour mon laboratoire CLAR, aux presses universitaires et puis au service de la recherche, eh bien, ils ont toujours soutenu nos projets. Et donc ça, c'était quand même très important de le souligner. Voilà. Et on va continuer évidemment ces projets puisque nous avons monté avec l'Université Bordeaux-Montaigne. Maintenant, nous en sommes à, je monte pour octobre, le 8e colloque qui sera consacré à la science-fiction. Donc, c'est quand même un bilan vraiment intéressant. Voilà. Alors, premier numéro, peut-être, Philippe, tu voulais...
Oui, peut-être, puisqu'on a abordé cette question. On va revenir sur Michel Jury ensuite, mais oui. Puisqu'on a abordé cette question, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin sur ce sujet, puisque Terra Incognita, ça veut dire que la science-fiction est un peu une terre non explorée encore dans le monde universitaire. Est-ce que tu pourrais évoquer peut-être les raisons? Pourquoi y a-t-il ce retard? Pourquoi la science-fiction reste une terre inconnue, non fréquentée, non explorée par la recherche universitaire? Est-ce que tu as une petite analyse sur ce sujet?
Oui, tout à fait. Alors, cela s'explique de façon, je dirais, très simple. Dans les années donc, 50, début des années 60, nous allons avoir un grand promoteur de la science-fiction en France qui s'appelle Boris Vian. Alors ça, c'est une dimension de Boris Vian qu'on connaît finalement assez peu, tout simplement parce que Boris Vian va lire toute la science-fiction américaine qui va déferler véritablement en France à partir des années 50-60 dans des créations de collections. Ouais. Il va y avoir une multiplication de collections chez de grands éditeurs et chez des éditeurs mineurs en France. Et donc Boris Vian va véritablement se faire le promoteur de la science-fiction donc, en France. Mais malheureusement, je dirais de façon parallèle, il y a eu des détracteurs de la science-fiction, c'est-à-dire des intellectuels, par exemple Michel Butor, qui ont trouvé que la science-fiction, finalement, était un mode mineur d'expression littéraire et qui ont donc écrit des articles véritablement, tout à fait dévastateurs pour la science-fiction et qui ont eu un relais dans les médias et dans le monde intellectuel français. Alors que la science-fiction était un milieu très très vivant en France, hein, il y avait quasiment plus de 50 collections à l'orée des années 70, donc qui s'étaient créées, bien petit à petit finalement la science-fiction va être dévalorisée en tant qu'objet littéraire, ce qui est évidemment tout à fait dommageable, mais ça c'est un phénomène complètement français, parce que encore une fois, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, je dirais dans le reste de l'Europe, évidemment aux États-Unis, et donc vraiment, on a eu cette position de l'intelligentsia française qui a dévalorisé le mode d'expression de la science-fiction.
Est-ce qu'elle a souffert de la même suspicion qu'on a pu connaître pour le roman populaire en général, même si certains centres se sont développés, comme
oui, je crois, des centres je crois, tout à
d'études
fait.
Et de, le roman d'analyse, le roman populaire, donné, le roman policier, oui, tout la à littérature fait. De grande diffusion finalement.
Oui. Ça a été vraiment, voilà, je crois que les intellectuels français établissaient des hiérarchies finalement dans les genres littéraires. Et donc, eh bien, malheureusement, il y a des pans entiers de la littérature qui ont un lectorat absolument extraordinaire, qui ont totalement été laissés de côté, du coup, parce que la recherche française a suivi ce mouvement. Et donc, ces pans entiers de la littérature ont été totalement laissés de côté. Voilà. Et donc, on est en train finalement de rattraper ce retard-là.
Et on le rattrape rapidement ou tout doucement? Est-ce que c'est encore un peu compliqué, difficile de faire accepter l'idée qu'il y a un retard à rattraper, d'être soi-même accepté parce qu'on travaille là-dessus?
Je crois que ça dépend des universités. Ouais. Ensuite, il y a beaucoup d'universitaires de ma génération qui ont choisi deux objets d'études. C'est-à-dire, je vais citer un de mes collègues qui est Simon Bréant à l'université de la Sorbonne, qui lui n'a choisi que la science-fiction, qui a pu être recruté et qui vraiment lui aussi fait un travail de vulgarisation, de publication via une revue en ligne qui s'appelle Res Futurae. Nous avons aussi choisi un titre un petit peu latinisant. Et puis, du côté de la fantaisie plutôt, beaucoup moins de la science-fiction, on a également le cas de Vincent Ferré, qui est un collègue également de l'université Paris-Est, qui lui, voyait, a travaillé. Alors, il a deux objets d'études. Il a d'un côté l'essai et Proust, et de l'autre côté Tolkien. Évidemment, là où il a le plus de succès, où il vend le plus de livres, c'est pour ses études sur Tolkien.
Oui. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que du côté des études anglo-saxonnes en général, il y a peut-être un intérêt aussi, y compris parmi les collègues français ou les départements français, qui s'intéressent quand même à la création de science-fiction ou à l'héroïque fantasy, comme tu dis, ou à toute une littérature d'imaginaire.
Les littératures de l'imaginaire en général, absolument. Voilà. Et donc, on est en train de rattraper ce retard-là. On est aussi en train de le rattraper parce qu'il y a beaucoup de colloques, maintenant d'objets d'études, sur ce qu'on appelle la transmédialité, c'est-à-dire le fait de travailler sur la littérature, les jeux vidéo, le cinéma, les séries. Voilà. Et je crois d'ailleurs que l'Université Bordeaux-Montaigne a également créé une dynamique sur cette transmédialité, sur l'étude des séries, sur l'étude du cinéma. Donc, vraiment, je crois que notre université est particulièrement en pointe, je dirais, entre guillemets, à ce niveau-là et pour cette recherche-là.
Et un dernier mot peut-être sur la collection elle-même, et puis on va venir sur le premier ouvrage de cette collection. Incognita, donc, disais-tu, c'est parce que la collection va être consacrée quand même à des inédits. Alors, quel type d'inédit peut-on disposer dans le domaine de la science-fiction? Bon, là, on a des textes autobiographiques, des textes personnels, mais y a-t-il des œuvres qui sont inédites encore? Parce que la littérature de grande diffusion, par définition, ça se diffuse. Donc, on en a assez peu dans les tiroirs. Quels sont les projets?
Alors, nous avons à peu près une dizaine, je dirais, de projets. Cette année, alors sans compter tous ceux qui vont venir se greffer, nous avons le cas par exemple cette année, alors là le deuxième numéro de la collection va être consacré à un auteur qui est aussi méconnu qui s'appelle Jack Spitz. Et nous avons un collègue canadien qui s'appelle Patrick Gay, qui est spécialiste de Jack Spitz, parce qu'au Canada, et ça c'est intéressant aussi, ils ont des études sur la science-fiction qui sont extrêmement développées, a travaillé sur le journal intime de Jack Spitz, et c'est ça qui nous a intéressé pour ce numéro 2, c'est-à-dire qu'on a véritablement un matériau, des œuvres littéraires qui n'ont pas encore des nouvelles, par exemple, ou des petits textes courts qui n'ont pas encore été édités, ce journal intime qui a été étudié par Patrick Gay, et donc bien sûr l'analyse, je dirais, l'essai finalement de ce journal intime. Le numéro 3 qui s'est greffé sur ce que j'avais finalement, sur ce que nous avions prévu, va être consacré à la revue américaine Heavy Metal, et elle va être donc ce travail-là va être réalisé donc par Nicolas Labarre, qui est un grand spécialiste angliciste de la bande dessinée, donc dans notre université. Un numéro 4 sur Francis Carsac et un numéro 5 sur Régis Messac. Donc Carsac, nous aurons un essai inédit, plus de la correspondance, inédite entre Francis Karsak, Isaac Asimov et Poul Anderson. Ils sont quand même des grands noms de la science-fiction américaine. Et puis, nous aurons également une autre autobiographie, celle de Régis Messac, totalement inédite pour le cinquième numéro. Bon. Et après, voilà, il y a beaucoup d'autres projets, des projets éventuellement de traduction, de textes qui n'ont jamais paru en France, etc. Donc, d'accord. À chaque fois, nous allons proposer ou des essais, mais des essais qui seront toujours accompagnés de documents fictionnels, de correspondances totalement inédites et qui devront servir finalement d'outils sur ces auteurs-là. Donc méconnus ou insuffisamment travaillés donc en France.
Oui. Parce que ça permet de revenir à ce premier livre. C'est vrai que là, on a à la fois un texte à lire, un texte qui mérite d'être lu pour lui-même, c'est-à-dire, comme tu le disais, un texte autobiographique, écrit, qui raconte, qui décrit le parcours d'un individu, etc., etc. Donc très attachant, par ailleurs. Et puis en même temps, au-delà de ce plaisir de lecture que l'on peut avoir à découvrir le texte lui-même, une somme d'informations, bibliographie, notes de bas de page, donc tout un ensemble quand même extrêmement riche qui permet de mieux connaître aussi l'environnement et le contexte. Donc il y a à la fois cette dimension lecture, pour ceux qui sont des amateurs, on pourrait y revenir, de tel ou tel aspect de l'œuvre de Jury, on va revenir sur ce côté biface du personnage, et puis en même temps ce travail universitaire très très important, puisqu'on a une somme de notes capital. Donc on est bien dans cet esprit à la fois de publication d'inédits et en même temps d'apport à la recherche, d'apport d'informations à la recherche, et ça me paraît très très important pour que la terra soit de moins en moins incognita, qu'on continue à avancer dans cette découverte. Alors on va revenir peut-être sur ce premier livre de la collection, ce premier numéro. Peut-être quand même, je reviens sur une question à laquelle on n'a pas apporté de réponse, puisqu'un livre, ça se commence par sa couverture, par sa première page, carnet, bon, on a compris pourquoi il y avait des carnets, mais chronolithique, est-ce que tu pourrais quand même revenir sur ce mot chronolithique, alors qui marque quand même l'œuvre de Jury, qui marque aussi toute une époque, mais qui mérite quand même une petite explication.
Voilà, alors pourquoi chronolithique? Parce que Michel Jury, lors de la parution de son premier roman, qui s'appelle Le temps incertain, Michel Jury a beaucoup travaillé sur la notion de temps. Et en réalité, le temps incertain, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le renouvellement, la réécriture du voyage temporel, mais un voyage temporel qui ne se fait pas à l'aide d'une machine. Donc tout le monde connaît bien sûr, je pense, la machine à explorer le temps, évidemment, de Herbert George Wells, qui date de 1895, et le XXe siècle a véritablement exploré complètement ces différentes machines, évidemment, à explorer le temps. Sauf que Michel Jury, lui, a inventé une machine à voyager dans le temps psychique. À l'aide d'une drogue qui s'appelle la chronolyse. Voilà. Et en réalité, votre corps ne se déplace pas, mais c'est votre esprit qui se déplace dans le temps. Donc c'est un concept, je dirais, un petit peu complexe à appréhender, mais qui a vraiment été littéralement inventé. Donc c'est vraiment l'invention littéraire là de Michel Jury. Alors, bon, vous comprenez bien qu'une autobiographie qui finalement revient dans le parcours de Michel Jury, eh bien, il nous a semblé, à Richard Combalot, je dois d'ailleurs rendre à César ce qui est à César, c'est Richard Combalot qui m'a proposé ce titre, qui est aussi un grand connaisseur évidemment de l'œuvre de Michel Jury. Il a publié plusieurs de ses œuvres, notamment Au mouton électrique, qui est un éditeur spécialisé dans la littérature de l'imaginaire. Et donc nous avons choisi ce titre parce que cela nous semblait tout à fait intéressant de montrer que ces différents, je vais y revenir tout de suite, ces différents finalement textes autobiographiques, eh bien c'est aussi un parcours dans la vie et le temps de Michel Jury. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Michel Jury ne s'est pas contenté de raconter. En fait, dans chaque fragment, il est revenu sur, des épisodes de sa vie. Il les a racontés de manière différente. Ouais. Il a fait des anticipations par rapport à son futur. Il est revenu dans son passé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un parcours temporel à l'intérieur même donc, de ces fragments autobiographiques. Et c'est pour ça qu'on les a appelés donc, les carnets chronolithiques, parce que cela correspondait finalement, à l'invention même de Michel Jury. Le concept, en fait, qu'il a inventé,
c'est
il a
bon
vécu.
Choix. C'est un bon choix, voilà. C'est un bon choix, parce que ça nous plonge au cœur de l'œuvre de Jury. En même temps, c'est un côté un petit peu énigmatique. C'est bien qu'un titre ait quelque chose d'un petit peu énigmatique. Comme ça, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, sur cette machine à remonter le temps. Bon, on va prendre la machine, on va remonter le temps. Alors, parce que c'est ce qu'on va trouver dans l'œuvre de Jury. Donc, on peut aborder peut-être justement les différents moments de ce parcours. Moi, je dirais qu'on peut peut-être l'aborder, pour le dire simplement, et puis bon, ceux qui liront le livre pourront se plonger davantage dans chaque tranche de cette chronolyse ou de ce parcours chronolithique. Peut-être première tranche qui pourrait être, comme toujours dans un parcours autobiographique, l'enfance et la jeunesse, parce qu'il y revient quand même beaucoup. On sent que pour cet homme qui voyage dans le temps ou qui est obsédé, qui est animé, qui est tout à fait, comme on l'est tous d'ailleurs, hein, parce que tous ces récits de voyage dans le temps qui constituent une des grandes voies, un des grands thèmes de la littérature de science-fiction, ça nous fascine toujours hein, par cette capacité que nous avons. Mais lui, il reste très marqué quand même par une enfance qui reste très très présente dans sa vie et dont il semble ne s'être jamais tout à fait éloigné. Alors peut-être quelques mots comme ça sur ces récits d'enfance, ces fragments d'enfance qui reviennent souvent dans son livre.
Alors, d'abord, il faut revenir à l'origine. Donc, Michel Jury est né à Razac-Deymé. Il a vécu dans le canton d'Issijac, donc Deymé, en Dordogne, côté de Bergerac, hein, pas très très loin évidemment de Bordeaux. C'était un enfant souffreteux. Qui a eu quand même une enfance très difficile, une enfance misérable. Il nous a quand même avoué à un moment donné, dans un entretien qu'il nous a livré, hein, justement à l'université Bordeaux-Montaigne, que nous l'avons filmé, que ses parents, à un moment donné, ont songé à se suicider, tellement ils étaient pauvres. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, si vous voulez, c'était la misère, il l'a véritablement connue. Ses parents étaient des métayers. Mais à côté de cette misère, il y avait dans cette famille une grande richesse affective, à tout point de vue. Alors affective entre Michel Jury et ses parents, il était enfant unique, entre leurs animaux, leurs bêtes. Il raconte d'ailleurs des passages tout à fait touchants dans le livre sur une histoire avec son chien, avec ses vaches. Vous voyez,
oui, c'est très rural.
Voilà, tout à fait, c'est très rural. Ouais. Et Michel Jury s'est toujours dit quelqu'un qui avait les pieds dans la terre et la tête dans le ciel. Très très vite, il a évidemment rêvé de quitter ce milieu et un de ses rêves, ça a été de devenir écrivain à partir de l'âge de 10 ans, alors qu'il n'était mais absolument pas en contact avec le monde littéraire. Sauf que son père, pendant la guerre de 14, avait sauvé la vie à Marcel Granchet. Et Marcel Granchet, en réalité, c'était un écrivain très populaire des années 30-40. Et pour vous faire le lien, si le nom de Marcel Granchet ne vous dit strictement rien, eh bien, le secrétaire de Marcel Granchet s'appelait Frédéric Dard. Autrement dit, celui qui allait évidemment connaître du succès sous le nom de San Antonio. Et du coup, le père donc, de Michel Jury lui dit « Écoute, Michel Jury doit avoir 17 ans, si tu veux devenir écrivain, on va faire venir Marcel et il va t'expliquer ce que c'est que le métier d'écrivain. » Et il a commencé comme ça. Voilà. Et il a mis, alors, de façon étonnante, en fait, il a mis très longtemps. Il a commencé, il a publié Le Temps Incertain, il avait 39 ans. Et donc, entre l'âge de 17 ans et l'âge de 39 ans, eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé son œuvre, l'a écrite, mais ne l'a jamais envoyée à la publication. Voilà. Alors, sauf, je crois, alors il y a eu quand même deux romans qui ont eu un petit peu de succès. C'est Le Diable souriant, qui était donc un roman de littérature générale sur mettant en scène un héros de la résistance, donc en Dordogne. Voilà. Et il y a eu La Machine du pouvoir en 1960, qui a eu donc le prix Jules Verne. Voilà. Et après, grand silence quand même pendant quasiment 13 ans. Donc c'était un petit peu un écrivain à éclipse. Et c'est quelqu'un qui, pendant ce temps-là, eh bien, a fait, je dirais, une multitude de petits travaux, de métiers pour justement arriver à survivre. Mais son idée, c'était toujours, effectivement, son idée d'enfance, en quelque sorte. C'est pour ça que son enfance est très, très présente en lui, parce que c'était, c'était encore un enfant, finalement, quelque part en lui. Son rêve d'enfant, eh bien, l'a porté. Et puis, finalement, eh bien, lui a donné le succès, un peu tardivement, mais lui a quand même donné le succès et la réussite que l'on sait.
Oui, oui. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre. C'est donc ces récits, je dirais, de la naissance d'un écrivain, comme on a le fils du peuple, le pain noir, enfin, toutes ces trajectoires, finalement, de gosses issus de milieux très simples, très populaires, très défavorisés, sans environnement culturel, mais qui, portés par un rêve hein, en eux, et puis attendant l'occasion, la rencontre, celui qui va favoriser le passage à l'écriture, parce qu'il y a souvent comme ça une personnalité, un instituteur, on pense à Camus ou on pense à d'autres,
oui.
qui joue un rôle clé à un moment donné d'un parcours, et lui, alors ça prend un certain temps, c'est souvent un petit peu compliqué, il y a souvent la question de la légitimité, suis-je légitime pour
oui.
entrer dans ce monde qui est un monde
oui.
qui m'est interdit, l'accès à la culture et à la création,
oui.
c'est toujours compliqué, et puis, comme tu dis, il y a ces 36 boulots, alors qu'il raconte avec beaucoup d'humour d'ailleurs, hein,
oui.
parce qu'il fait 36 métiers, bon, il les évoque avec pas mal de distance, avec pas mal d'ironie,
oui.
tire un petit peu le diable par la queue, mais bon, il s'en sort. Et puis, il y a l'entrée dans la science-fiction. Le temps tourne aussi pour nous, il tourne pour lui, hein, puisque c'est une machine à remonter le temps, mais on va peut-être aborder. Parce que quand même, dans le livre, on sort avec lui de ce moment, je dirais, d'attente de la reconnaissance littéraire et du passage à l'écriture. Mais quand le ciel s'éclaire, il s'éclaire quand même assez brusquement
oui.
et de façon forte, parce
oui.
qu'il va entrer dans le monde de la science-fiction par la grande porte. Et là, ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'on va vraiment entrer dans le milieu, comme tu le disais, de cette science-fiction des années 70. Et là, on va rencontrer tous les acteurs de ce monde-là. Alors, d'abord, Gérard Klein, le premier, hein, qui lui sert là aussi d'introducteur, à proprement parler. Et puis, pas n'importe où, hein, dans ce qui est à l'époque la collection phare, Ailleurs et demain, chez Robert Laffont. Donc ça, alors aujourd'hui, on a changé les couvertures, mais à l'époque, c'était vraiment les couvertures très années 60, hein, avec un design, un look qui était absolument reconnaissable.
Oui, d'ailleurs, je peux tout à fait expliquer
ce
que sont,
hein,
ces couvertures.
C'était vraiment les grandes collections, avec Présence du futur, c'était
oui.
vraiment les grandes collections. Et Jury commence par là, donc c'est quand même
oui.
pas rien. Et donc, c'est son premier grand succès,
oui.
c'est une reconnaissance très forte.
Voilà. Alors, à partir des années 1967-1968, nous sommes en pleine période du nouveau roman, avec des grands noms que Michel Jury, évidemment, connaît et lit, comme Michel Butor, par exemple, de façon totalement paradoxale. Et alors, il se dit, je vais écrire un roman, un nouveau, moi aussi, je vais écrire un nouveau roman. Voilà. Et donc, il se met à écrire pendant à peu près, je dirais, 5 ans, il va le travailler, son temps incertain, en écrivant des séquences narratives, hein, un petit peu à la façon du nouveau roman, comme Michel Simon, par exemple, aussi. Claude Simon, pardon, excusez-moi, comme Claude Simon. Et du coup, finalement, ce roman qu'il est en train d'écrire va peu à peu passer de la littérature générale à la science-fiction. Et puis, bon, il a envoyé quelques manuscrits, vous savez comment c'est quand on ne connaît pas du tout le milieu, comme ça, un petit peu comme des bouteilles à la mer. Et puis, il envoie son manuscrit, donc, du temps incertain, à Gérard Klein, qui, à cette époque-là, venait justement d'ouvrir sa collection, donc Ailleurs et demain, chez Robert Laffont. Alors, cette collection, elle est, juste, j'ouvre une parenthèse, elle est très connue, elle est restée visuellement très connue parce que ce sont des couvertures argentées avec des formes un petit peu psychédéliques, dorées ou argentées. Et en réalité, cette couverture-là, c'est une fabrique, donc une usine de chocolat qui fabrique également le papier, qui
D'accord.
fournit
D'accord.
justement Robert Laffont et qui fait justement, quand
D'accord.
on regarde, c'est du papier chocolat D'accord. en fait qui les recouvre. Et quand l'usine malheureusement fera faillite, eh bien,
D'accord.
les fameuses couvertures s'arrêteront. C'est pour ça que ça a disparu. Voilà, je ferme
D'accord.
la parenthèse, ça c'est c'était la petite anecdote. Donc Michel Jury va attendre 1 an. Et puis au bout d'un an, il reçoit une lettre de Gérard Klein, qui à l'époque est véritablement quelqu'un de très important dans le milieu de la science-fiction, parce que Robert Laffont, vous imaginez, c'est quand même un très grand éditeur. Et donc il reçoit cette lettre, et là Gérard Klein lui dit, je suis revenu, alors nous avons reproduit la lettre dans le livre, je suis revenu de votre voyage chronolithique, et il lui dit en gros que c'est un chef-d'œuvre. Et qu'il va publier donc tout de suite. Et là, Michel Jury, très content de recevoir cette lettre de Gérard Klein, tombe un petit peu des nues quand même, parce que d'un seul coup, ça va véritablement le propulser sur le devant de la scène littéraire. Et Gérard Klein, ne sachant pas du tout qui était Michel Jury, était persuadé que celui qui avait écrit Le Temps Incertain était un grand intellectuel parisien, qui avait utilisé donc un pseudonyme.
Mmh.
Et le jour où il va rencontrer Michel Jury, qui à l'époque vivait dans une petite maison, parce que ses parents étaient gardiens, alors de ce qu'on appelle un château en Dordogne, en fait, c'est une belle bâtisse que nous avons d'ailleurs visitée lorsque nous avons fait l'entretien avec l'université. Et donc, ils étaient gardiens, voilà, de cette maison-là. Et Michel vivait dans une pièce qui n'était pas chauffée l'hiver. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un cliché, hein. Il avait vraiment cette vie très, très pauvre. Et donc, là, tout de suite, il dit à ses parents, ma vie va changer. Effectivement, financièrement, sa vie va un petit peu changer. Il va y avoir Jacques Goimard. Alors, Jacques Goimard, qui était universitaire et qui était aussi un personnage important du milieu du fantastique, de la science-fiction, enfin, des littératures de l'imaginaire, donc à cette époque-là, va lui écrire un article dans Le Monde des livres. Mmh. Donc, vous voyez, pour un premier roman, enfin, je veux dire, c'est une entrée totalement, littéralement, fracassante.
Voilà. Oui, oui, oui.
Pour vous donner quand même une idée un petit peu de l'ambiance de l'époque, les Bogdanov vont écrire à Michel Jury 2 ans plus tard pour lui demander que Michel Jury les introduise dans ce milieu de la science-fiction. Et puis eux vont évidemment avoir après le parcours que nous connaissons donc dans ce milieu de la science-fiction. Mais voilà, en 2 ans, je pense que Michel Jury est devenu un personnage clé de la science-fiction,
une sorte de gourou. Il tombe dans un environnement parce que la collection, donc Ailleurs et Demain, ce sont les plus grands noms de la science-fiction.
Oui.
Et dans les premiers...
Non, internationaux d'ailleurs.
Internationaux, c'est-à-dire que c'est un des rares français d'ailleurs au début, avec Sternberg qui va avoir aussi sa petite gloire à l'époque et qui joue un rôle important aussi en tant que chroniqueur. Mais il est avec Leiber, il est avec Philippe K. Dick, il est avec tous les grands noms. Donc il se retrouve tout d'un coup dans son propre panthéon personnel.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je crois que jusqu'à la fin de sa vie, je ne sais pas s'il se rendait... Enfin, il disait, il avait toujours l'impression que... Il n'avait rien à faire là, que ce n'était pas possible, vous voyez, qu'il s'était trompé de dimension, qu'il avait, s'était passé quelque chose dans sa vie.
Une erreur du destin.
Oui, il y avait une erreur d'aiguillage quelque part, et qu'il aurait finalement...
La chronologie avait mal joué, c'est ça.
Mais en même temps, je crois aussi quand même qu'il était quand même content d'avoir réalisé son rêve. Et en même temps, cette vie d'écrivain le stressait énormément, parce que vous imaginez que quand on est publié chez Lafont, c'est un livre par an, aussi bien dans la science-fiction et surtout dans la littérature de terroir. Et donc, il fallait quand même fournir de la matière. Et ça, c'était quelque chose qui l'angoissait énormément, alors qu'en réalité, il y arrivait très bien. Mais dès qu'il finissait, il fallait qu'il se relance sur un autre roman. Et je crois que c'était quelque chose qui l'a angoissé jusqu'au bout. D'ailleurs, il m'a dit, je crois qu'il a écrit ses derniers textes en décembre 2014. Il est décédé en janvier 2015. Je l'ai eu au téléphone, je crois, en décembre. Et il m'a dit, Natacha, le jour où j'arrête d'écrire, je disparais. Je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Et puis bon, la maladie, il avait un problème cardiaque, il avait des problèmes cardiaques, donc le rattrapant, il n'a plus pu écrire et il s'est éteint donc en janvier 2015. Vous voyez. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aura écrit jusqu'au bout et qui a été porté littéralement par ça, aussi bien affectivement finalement que psychiquement et intellectuellement.
Alors je voulais t'interroger sur, puisqu'on est dans cette période-là, qui est sa période de gloire, de reconnaissance.
Oui.
Il est arrivé au sommet déjà, et il va y rester pendant un certain temps. Mais je voulais t'interroger sur les relations qu'il entretenait avec ce milieu de la science-fiction, parce que c'est vrai qu'on voit défiler, alors en même temps vous donnez, il y a une richesse de notes extraordinaire dans le livre, c'est-à-dire que dès qu'on va rencontrer une personnalité, Bergier, Goimard, etc., Gérard Klein, bon, on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur tous ces personnages-là. Donc, il est en contact avec tous ceux qui font la littérature de science-fiction à l'époque. Et même si, comme tu le disais, dans le monde universitaire, elle n'est pas bien considérée ou pas très, très étudiée, mais elle a quand même à l'époque un public extraordinaire. Oui. Donc, il y a vraiment une présence, y compris dans les journaux, puisque, comme tu dis, Goimard, c'est dans le monde des livres qu'il publie, dans le magazine littéraire, enfin, tous les journaux d'époque ont une rubrique science-fiction, Sud-Ouest aussi, d'ailleurs, à l'époque.
Oui, absolument.
Et lui, va y écrire, d'ailleurs, aussi.
Jusque la fin des années 80, début 90.
Et en même temps, on a le sentiment, quand on le lit, qu'il est dans ce milieu-là, et en même temps, il n'est pas totalement... quoi. Tu disais qu'il ne s'y sentait pas tout à fait à sa place, et en même temps, c'est un peu le sentiment qu'on a aussi en lisant ces textes. Ouais. Il reste quand même un peu un homme du terroir, un homme de la campagne, un homme de la ruralité, comme s'il était quand même encore un peu à part. Quelle relation il a entretenu avec ce monde-là ?
Alors, d'abord, une relation très affective. Michel Jury me disait, la science-fiction, c'est comme une famille.
Ouais.
Et moi, je le vis, véritablement. Ouais. Même si je ne suis pas, évidemment, écrivain, auteur, je suis universitaire, je suis chercheur, et j'ai vraiment un rapport avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection avec les différents acteurs donc, de la science-fiction, parce que ce sont des gens que l'on approche, véritablement. Voilà, cette année, par exemple, nous allons... au mois d'août, du 25 au 28 août, il va y avoir la Convention nationale de science-fiction que je co-organise à Bordeaux. Et donc, vous voyez, c'est vraiment... ce sont des événements qui se font avec les écrivains sans aucune distance. Hein. C'est vraiment des rapports très amicaux, très affectifs qui peuvent se créer. Et ça, pour Michel Jury, ça a été très important. Ensuite, c'est quelqu'un qui aimait le milieu de la science-fiction parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui écrivaient. Et donc, c'est quelqu'un qui, jusqu'à la fin, a aussi donné des coups de pouce, justement, pour aider donc c'est aider ces jeunes écrivains. Et en même temps, son grand rêve, c'était quand même d'écrire un roman paysan. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le milieu de la science-fiction, et lui-même, il a même vécu comme une espèce de trahison, c'est-à-dire sur ce milieu qui lui avait quand même donné quelque part un peu la célébrité, voilà, une réussite quand même en tant qu'écrivain. Et il a dit, je vais écrire ce roman paysan, voilà, ce roman de la terre. Et ça, c'est ça, il voulait devenir un écrivain véritablement de la terre. La preuve en est, c'est que, je dirais, au plus fort, finalement, de sa carrière d'écrivain de science-fiction, il vivait à Issy-Jacques. Issy-Jacques, petit village médiéval.
C'est ça.
Voilà, et il était parfaitement bien dans ce village-là. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais pu vivre à Paris. Alors qu'en réalité, il aurait très bien pu réussir à Paris aussi. On lui a proposé... à un moment donné, de devenir scénariste pour la télévision. Et ça, il a écrit des scénarios pour la télévision, des téléfilms qui ont relativement bien marché sur Antenne 2 et puis France 3 dans les années 90. Mais il a dit, jamais je ne pourrai vivre à Paris. Je ne peux pas m'éloigner finalement de la Terre. Et donc, après Issy-Jacques, ils ont déménagé pour la bambouserie d'Anduze, donc dans les Cévennes. Donc là aussi, un autre terroir où il était vraiment... où il a été très heureux. Il a fini donc sa vie à Villedieu, donc en Provence, en Haute-Provence. Et c'était quelqu'un qui était heureux, voilà, dans ce terroir-là, parce qu'il avait besoin de la campagne, de la forêt. C'était un grand marcheur. Alors, comme beaucoup d'ailleurs souvent d'écrivains, il y a une grande tradition d'écrivains marcheurs dans la littérature française, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Et donc, il s'inscrivait totalement dans cette tradition-là. Voilà. Donc, pas vraiment mal à l'aise, mais je pense partagé complètement entre deux mondes. La preuve en est, c'est que après ces grandes réussites, vous voyez, dans le roman de terroir, le roman régionaliste, il est revenu à la science-fiction en 2010, parce que quelque part il fallait qu'il revienne à la science-fiction, qui était aussi finalement sa littérature de cœur quelque part.
Peut-être on va poser une dernière question. Je voudrais revenir sur cette double carrière quand même qui est assez étonnante, parce que, alors, elle n'est pas rare, c'est-à-dire que de nombreux auteurs de science-fiction ont deux registres ou deux plumes, mais souvent ça va être la science-fiction et le roman policier, par exemple, qui est assez souvent rencontré, parce qu'on va être là aussi dans des modes de narration qui sont assez habituels, avec des publics qui sont des publics très ciblés aussi, avec des collections, etc. À ma connaissance, on n'a pas beaucoup quand même ce double registre-là, c'est-à-dire la science-fiction d'un côté, comme tu dis, qui nous entraîne dans les étoiles ou dans des mondes intergalactiques, et puis le roman de terroir. Enfin, on n'est pas à la fois Philippe K. Dick et Claude Michelet. Donc cette dualité-là, elle est assez étonnante chez lui. Alors bon, tu y as en partie répondu. On pourrait se demander si, parce que parfois ça peut apparaître ainsi, si à un moment donné, il y a une sorte de choix un peu stratégique dans sa vie, c'est-à-dire qu'une veine qui s'épuise un peu... une difficulté quand même aussi à y arriver, et donc la nécessité peut-être de réorienter la production vers peut-être un secteur qui serait plus porteur, y compris d'ailleurs commercialement.
Mais
en même temps, comme tu le dis, et tu l'as déjà indiqué, mais peut-être que tu peux peut-être y revenir, quelque chose de plus profond quand même aussi. Et ce retour à la Terre, c'est aussi le retour à quelque chose aussi de plus ancré en lui.
Ah oui, je pense que véritablement le...
Alors, et c'est un retour au passé d'ailleurs.
Oui,
quand même.
Plusieurs éléments qui me semblent importants. Ce retour à la Terre, ce n'est pas uniquement un retour à la Terre, c'est aussi, comme tu le dis très bien, un retour au passé. Oui. Dans le passé, parce que c'était... Michel Jury s'intéressait énormément. C'était un autodidacte total, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu le bac, mais qui a toujours regretté de ne pas faire d'études supérieures, parce que bon... voilà, le milieu d'où il était issu, enfin, c'était déjà très, très compliqué, ne serait-ce que pour passer le baccalauréat. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours beaucoup intéressé, par exemple, à l'histoire. Et donc, pour lui, chaque roman, finalement, et il l'explique bien, d'ailleurs, dans ses carnets chronomythiques, chaque roman, c'était l'occasion de faire des recherches, d'aller creuser dans une région, un événement historique, une période historique. Par exemple, il a écrit deux magnifiques romans sur l'histoire de la soie dans la région lyonnaise. Et il m'a montré, si vous voulez, toute sa bibliothèque qu'il avait effectivement consacrée à ce sujet-là. C'est quand même un sujet relativement pointu, techniquement, historiquement parlant, qui a des bandes temporelles dans l'histoire, donc évidemment de la vallée lyonnaise, des Cévennes, puisque c'est évidemment un des axes économiques donc des Cévennes dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc voilà, ça c'était pour lui, vous voyez, cette espèce d'attirance vers l'histoire qui était particulièrement importante. Le passé aussi, parce qu'il voulait faire revivre ce monde de la paysannerie, justement du début, de cette première moitié du XXe siècle qui a totalement disparu. Le monde des métayers, ces paysans, ce monde des villages qui aujourd'hui est totalement métamorphosé et transformé. Donc c'est ça qu'il a voulu finalement garder en tête. Toujours ce travail sur le temps, mais là pour le coup on n'est pas dans le voyage, enfin on est dans un voyage dans le passé, et il voulait véritablement figer ça. Et puis injecter aussi, je pense, dans ces romans-là, des éléments quand même autobiographiques. Vous voyez, liés par exemple à sa famille, à ses parents, à lui-même. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont injectés justement dans ces romans-là.
J'ai beaucoup de, si je puis dire, de fils du peuple qui deviennent écrivains. Il y a à la fois parfois l'éloignement, qui est vécu comme une trahison, et puis ensuite il y a quand même un retour, qui est vécu comme un hommage, parce que il faut quand même aussi rendre hommage à ceux dont on est issu, parce que s'en éloigner trop pour devenir le grand écrivain qui, c'est peut-être aussi quelque part les abandonner ou les perdre. Oui.
Et, alors Michel Jury n'a absolument pas abandonné ses parents, parce qu'il est resté avec eux jusqu'à la fin. Ses parents sont morts à l'âge très respectable de 93 et 94 ans à Issy-Jacq. Et c'est après justement leur décès, il était très très attaché à eux, qu'il a décidé de changer. Vous voyez, c'est vraiment une rupture, de changer totalement finalement de dimension littéraire et d'écrire donc ces fameux romans de terroir, romans régionalistes. Vous voyez, donc la fin de la science-fiction, ça a été aussi la fin d'une époque, la fin finalement presque d'une zone de localisation, d'habitation. Et il est reparti sur les Cévennes avec une nouvelle carrière littéraire. Alors là, par exemple, dans les Cévennes, c'est quelque chose qui est totalement étonnant, qu'on sait assez peu. Je ne sais pas si vous connaissez la bambouseraie d'Anduze, qui est un lieu magique dans les Cévennes. Et en fait, Michel Jury a écrit le livre de présentation sur les bambous, qui n'est pas signé,
parce
qu'il logeait dans la bambouseraie, donc il a accumulé véritablement, parce que c'était donc sa belle-famille qui tenait à ce moment-là donc les rênes de la bambouseraie, et donc du coup il s'est complètement documenté, il est devenu un grand spécialiste des bambous, et il a écrit par exemple là-dessus. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une grande curiosité pour tout un tas finalement de domaines très très divers, et c'est pour ça que le personnage est un personnage fascinant, parce qu'on a justement cet homme autodidacte qui s'est intéressé à des sujets vraiment particulièrement divers, qui n'avaient strictement rien à voir les uns avec les autres.
Voilà. Magnifique premier numéro donc pour la collection. Il fallait commencer par Michel Jury, par une personnalité aussi forte, et puis ensuite on va redécouvrir d'autres grandes personnalités aussi, enfin, Régis Messac, bon, on l'a un peu redécouvert grâce à toi, il y a de plus en plus de publications, Francis Carsac ou Spitz, donc il y aura quand même aussi, et il y en a beaucoup d'autres à redécouvrir. Merci beaucoup, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter Natacha que j'ai eu de plaisir à discuter, à échanger avec elle.